Bonjour à tous. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible à Marc 5 et on va lire les 20 premiers versets. Marc 5. Pour ceux qui ont une Bible comme ça, c'est à la page 647. Et donc, je lis dans la version second 21. Marc 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent. Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Alors cette année, j'ai fait des sondages sur un campus universitaire et j'ai demandé à un étudiant « Pour quelles raisons ne crois-tu pas en Dieu ?» Il m'a répondu « Je crois en l'homme. Je pense que l'homme ferait mieux d'agir que de croire. » À mon avis, cette réponse est assez symptomatique de la confiance qu'on a tendance à placer en l'être humain. Ce texte de Marc 5 nous donne des indices sur les limites à placer notre confiance en l'être humain. Alors, l'homme ferait-il mieux d'agir que de croire ? Ou ferait-il mieux de croire que d'agir ? L'homme ferait-il mieux d'agir que de croire ? Ou ferait-il mieux de croire que d'agir ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Alors, notre texte marque le début de trois rencontres de Jésus avec des personnes dans des situations difficiles. L'homme démoniaque, la femme souffrant de perte de sang et le chef de la synagogue. À chaque fois, Jésus va accomplir un miracle qui va révéler quelque chose sur sa personne. Mais ce texte s'inscrit aussi dans la continuité de ce qui vient de se passer. Au verset 1, on voit que Jésus et ses disciples arrivent sur la rive du lac. Alors, ils ne reviennent pas d'un petit tour tranquille en barque ou d'une partie de pêche. Ils viennent d'être confrontés à une grosse tempête que Jésus a calmée par de simples paroles. Une telle puissance sur les éléments de la nature effraie les disciples et suscite une question parmi eux. Qui est donc cet homme ? C'est à cette question que peu à peu, Marc répond dans les chapitres qui suivent. Et les trois rencontres mentionnées, dont celle avec le démoniaque, sont déjà des éléments de réponse. Ce récit peut sembler complexe, car il soulève des questions difficiles. Qu'est-ce qu'un démoniaque ? Pourquoi Jésus répond favorablement aux démons ? Et pourquoi des mesures aussi drastiques que l'envoi de tout un troupeau de porcs à l'eau ? Alors, je propose de ne pas vous focaliser sur ces questions, même si on va les aborder au cours de ce message, mais plutôt de chercher à voir ce qu'on peut retirer de ce miracle. Et c'est ce qu'on va faire en voyant d'abord qu'il s'agit d'une situation désespérée, ensuite qu'on fait face à une situation bouleversée, et enfin que la situation devient maîtrisée. Et donc on va commencer avec une situation désespérée, les versets 1 à 5, et je vais les relire. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Je vais zoomer sur trois aspects de ces versets. L'homme possédé, la possession démoniaque et l'entourage de l'homme. À peine Jésus a-t-il posé le pied au sol qu'il se fait interpeller par un homme qu'on qualifie de démoniaque. Alors Marc le décrit à partir du verset 2. Tout semble dans l'excès chez cet homme. Il a une force inouïe, il s'exprime en criant et il est sans cesse au milieu des tombeaux. L'influence de l'esprit impur conduit cet homme à se faire du mal à lui-même. D'une part, il s'exclut de la société en demeurant dans les montagnes ou au milieu des tombeaux. Et d'autre part, il s'automutile en se blessant avec des pierres. Alors perso, si je rencontrais un homme comme ça, je pense que je le fuirais assez rapidement. Et pourtant, cet homme est dans une situation triste qui devrait plutôt susciter la compassion. Alors ici, vous vous demandez peut-être en quoi ça vous concerne, parce qu'a priori, vous n'êtes pas démoniaque vous-même et vous ne connaissez personne qui vive en hurlant au milieu des tombeaux. Mais si le mal n'atteint peut-être pas cet extrême chez nous, nous sommes quand même tous concernés par un mal que nous avons du mal à combattre. Que ce soit notre péché, les injustices autour de nous ou encore l'indifférence, le rejet de ceux qui nous entourent face à Jésus. Donc nous sommes tous d'une certaine façon dans le cadre de l'homme démoniaque. Je ne suis pas experte sur la question de la possession démoniaque, donc je ne pourrais pas aller très loin dans les explications. Mais je pense qu'il est important d'en dire un mot afin de saisir l'ampleur de l'action de Jésus. Avec le développement de la psychanalyse, les commentateurs ont eu tendance à interpréter la possession démoniaque rapportée dans les évangiles comme une maladie psychologique. Je vais essayer de démontrer en quoi cette hypothèse est à exclure. Alors, premièrement, dans le Nouveau Testament, les personnes sous l'emprise de démons ne présentent pas toutes les mêmes symptômes. Certaines ont un comportement proche de la folie, comme ici, mais d'autres ont des maladies plus courantes, comme la cécité et le mutisme. Donc ce serait faux de considérer que la possession démoniaque est seulement une explication donnée à cette époque-là, à la folie. Deuxièmement, les textes font bien la distinction entre maladie et possession démoniaque. En Matthieu 4, verset 24, il est dit qu'on amena à Jésus ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés. Alors ce passage sépare bien les démoniaques et des épileptiques. Les Juifs étaient donc conscients de l'existence de maladies qui dépassaient les maux physiques. Troisièmement, les démoniaques ont des connaissances que les hommes ne peuvent pas avoir d'eux-mêmes. Plusieurs fois dans les évangiles, les démons proclament que Jésus est le Fils de Dieu, et ça dès le début du ministère de Jésus. Dans notre texte aussi, le démoniaque s'adresse à Jésus en lui disant « Fils du Dieu très haut ». La possession démoniaque est donc un phénomène bien réel. Alors pourquoi cette parenthèse sur la possession démoniaque ? En fait, interpréter la possession démoniaque comme une maladie psychique minimiserait l'action de Jésus. Et on verra ça plus en détail après. La gravité de la situation du démoniaque est aussi accentuée par l'incapacité des autres à l'aider. Marc insiste sur ce fait à deux reprises. Au verset 3, personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Et au verset 4, personne n'avait la force de le maîtriser. Je pense que dans notre culture actuelle, nous avons tendance à beaucoup compter sur les moyens humains. Et c'est vrai qu'il y a eu de considérables progrès depuis des siècles, par exemple en matière de technologie ou de médecine. J'ai lu un article qui parlait des avancées médicales face aux maladies de Parkinson et d'Alzheimer. C'est impressionnant de voir ce que les hommes sont capables de découvrir et d'inventer. Mais ça peut aussi nous conduire à croire que tout repose sur l'homme, que l'avenir dépend de lui et qu'il possède une certaine toute-puissance. Ce texte nous rappelle que nous restons des êtres humains limités. Les Gadaréniens ont bien essayé de maintenir l'homme démoniaque, mais rien n'y a fait. Ils ont voulu traiter le symptôme, mais il fallait en fait traiter le problème. Et personne ne pouvait résoudre le problème de ce démoniaque. La situation de l'homme est donc désespérée. Mais c'est là qu'intervient Jésus pour bouleverser la situation. Donc je passe donc à une situation bouleversée, les versets 6 à 13. Une situation bouleversée. Donc je vais relire ces versets. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent. « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyèrent dans le lac. Alors ce matin, vous ne le saviez peut-être pas, mais le rétroprojecteur ne marchait pas. Et grâce à Yvan, qui a changé l'ampoule, le rétroprojecteur s'est remis à marcher. Donc Yvan, c'était l'homme de la situation. Plus généralement, l'homme de la situation, c'est celui qui peut résoudre un problème dans une situation donnée. Dans cette partie du récit, on découvre que Jésus est l'homme de la situation. Et ça n'a rien de comparable avec le dépannage d'un rétroprojecteur. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Jésus agit par compassion pour l'homme marginalisé et souffrant. Vous pouvez voir à la fin du verset 19 qu'il commande au démoniaque de raconter comment le Seigneur a eu pitié de lui. Dans la suite du dialogue, on voit combien la vie d'un homme compte pour Jésus. Les démons vont précipiter 2000 porcs dans la mer. Jésus considère qu'un homme est plus important que 2000 porcs. Alors vous me direz, c'est un peu normal de considérer un homme comme supérieur à 2000 porcs. Mais j'imagine que les propriétaires de cet énorme bétail auraient préféré garder leur richesse que de voir cet homme en bonne santé. Et j'imagine qu'on aurait réagi de la même façon. Jésus, lui, n'a pas eu peur d'essuyer les critiques des habitants de la région. La vie d'un homme est tout ce qui compte pour lui. Au-delà de sa compassion, Jésus cherche surtout à démontrer qui il est. Et c'est ici qu'entre en jeu notre précision précédente sur la possession démoniaque. Jésus démontre ici sa supériorité sur les forces du mal et non sur les problèmes psychiatriques. Son ordre envers les démons est un avertissement pour eux. En effet, sa victoire sur les agents du mal annonce une victoire bien plus grande remportée à la croix. Légion, de son petit nom, a très bien saisi que la présence de Jésus annonçait des temps nouveaux et pas nécessairement sympathiques pour lui. Il est conscient qu'un jugement est imminent. Ça se voit dans sa question « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» et dans sa demande « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » La présence de Dieu n'est visiblement pas, la présence du Fils de Dieu, n'est visiblement pas un bon présage. En gardant cela en tête, nous comprendrons mieux sa requête suivante. Je t'en supplie, ne m'envoie pas hors du pays. Alors pourquoi cette demande de ne pas être envoyé hors du pays? En fait, il faut se demander ce que signifie hors du pays. Et pour ça, on peut regarder le même récit rapporté par Luc dans son évangile. Dans ce récit, les démons supplient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et le mot « abîme » dans la Bible fait référence au lieu d'habitation des puissances spirituelles du mal. Lorsque les démons demandent de ne pas être envoyés hors du pays, ils demandent de ne pas être envoyés chez eux, et donc de continuer à exercer leur pouvoir. Mais même si Jésus accepte, il s'agit uniquement d'un sursis, en attendant sa victoire finale sur les puissances du mal. Alors, on peut remarquer que même si Jésus répond favorablement à leur demande, les démons lui restent soumis. C'est parce que Jésus leur permet d'aller dans les porcs que les démons y vont. Les puissances du mal ne peuvent pas dépasser les limites que Jésus met à leur pouvoir. Ce récit, c'est donc un peu comme le match de rugby Afrique-Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde 1995. Alors, pour ceux qui ont vu le film Invictus, c'est de ce match dont il est question dans le film. Pour un spectateur non averti, il s'agit d'un simple match. Pour celui qui connaît l'enjeu de réunification de l'Afrique du Sud, qui se joue derrière ce match, il s'agit de quelque chose d'une ampleur bien plus grande. De même, on pourrait prendre ce miracle comme un simple miracle parmi tant d'autres que Jésus a fait. Mais en tant que spectateur averti, nous savons que derrière ce miracle, il y a quelque chose de bien plus grandiose. Le sursis que Jésus laisse aux forces du mal ne durera pas. À la croix, Jésus vaincra le mal. Avec le sacrifice et la résurrection de Jésus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Et nous reviendrons là-dessus à la fin. On vient donc de voir que Jésus était l'homme de la situation, le seul à avoir pu bouleverser la vie de l'homme démoniaque, le seul à avoir pu traiter le problème et non simplement les symptômes. Mais Jésus est celui qui maîtrise aussi parfaitement la situation. Donc on passe à une situation maîtrisée, les versets 14 à 20 que je vais relire. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Si vous feuilletez de temps en temps des magazines féminins, vous êtes déjà tombé sur la page relooking. Sur cette page, vous avez la photo d'une lectrice mal peignée, mal habillée, sans maquillage, avec un éclairage qui ne la met pas en valeur. La légende de cette photo indique « avant ». De quoi bien montrer la différence avec l'autre photo après le relooking. Marc utilise le même effet ici. Il a d'abord décrit l'état désespéré de l'homme qui était sous l'emprise d'un esprit impur. Mais on retrouve maintenant notre homme assis, habillé et dans son bon sens. Quel contraste ! La situation a réellement été bouleversée, mais elle suscite des protestations. L'enchaînement du verset 15 est assez amusant. L'homme désormais paisible crée chez les gens une réaction d'effroi. Mais au-delà de l'ironie, cet enchaînement doit être souligné. Ce n'est pas la noyade des pourceaux qui conduit les habitants des environs à être effrayés. C'est bien le miracle de Jésus. D'ailleurs, les disciples ont eu la même réaction quand Jésus a calmé la tempête. On peut voir juste avant, en Marc 4, verset 41, qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. La puissance de Jésus fait peur. Le pouvoir de Jésus ne relève pas de l'ordinaire, et ça bouscule notre pensée humaine. Mais si les disciples ont manifesté leur curiosité face à la puissance extraordinaire de Jésus, les habitants de la région, eux, ne semblent pas vouloir aller plus loin. Ils s'arrêtent soit à ce qui dépasse leur entendement, soit à des considérations matérielles, puisque c'est après avoir entendu ce qui est arrivé aux démoniaques et aux porcs qu'ils demandent à Jésus de partir. Bizarrement, Jésus accepte et on pourrait penser qu'il se soumet aux habitants du pays. Le dialogue entre Jésus et le démoniaque montre que ce n'est pas le cas, comme on va le voir. Contrairement aux habitants du pays, le démoniaque demande à Jésus de l'accompagner. La réponse de Jésus peut paraître surprenante. D'une part, il a déjà plusieurs fois reproché à des personnes de ne pas être prêtes à tout abandonner pour le suivre. D'autre part, il a souvent interdit de raconter ce qu'il avait accompli comme miracle. En Marc 1, verset 44, par exemple, Jésus demande à un lépreux qui vient de guérir de ne rien dire à personne. La clé pour comprendre ces paroles se trouve dans la localisation du miracle. Nous sommes dans la décapole, comme l'indique le verset 20, c'est-à-dire dans un territoire qui mélange juifs et païens. La présence d'un troupeau de porcs nous fait penser que les habitants de la région ne sont pas juifs, parce qu'il était interdit aux juifs de pratiquer l'élevage des porcs. Donc ce n'est pas dans cette partie que Jésus compte effectuer la grande partie de son ministère. Jésus s'est d'abord adressé aux juifs et il a concentré son action dans les territoires où il se trouvait. Du coup, il y a deux conséquences. D'abord, ici, il ne risque pas d'être gêné dans sa mission par la foule. En Galilée, au contraire, Jésus devait faire attention de ne pas se faire proclamer roi, ce qui l'aurait empêché d'aller jusqu'à la croix. Ensuite, il veut se faire connaître dans cette région dans laquelle sa réputation n'est pas encore faite. C'est pour ça que Jésus envoie l'ex-démoniaque vers les siens. Malgré le rejet des habitants du pays, Jésus prépare le terrain à l'annonce de l'évangile grâce à l'ex-démoniaque. Et le résultat, c'est que tous sont dans l'étonnement. Je pense que l'étonnement est un pas en avant par rapport à la peur parce qu'il suggère un questionnement. Ce n'est donc pas parce que Jésus accepte de partir qu'on va arrêter de parler de son autorité sur les puissances du mal. Alors, un deuxième petit indice montre que tout au long du récit, Jésus maîtrise la situation. Vous avez peut-être noté qu'un mot revient régulièrement dans ce récit. C'est le verbe « supplier ». Alors, les traductions ne le rendent pas toujours parce qu'on n'aime pas trop les répétitions en français, mais je vais vous le montrer. Au verset 7, « Je t'en supplie, ne me tourmente pas ». Verset 10, « Il le suppliait avec insistance ». Verset 12, « Tous les démons le supplièrent ». Verset 17, « Ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire ». Verset 18, « Celui qui avait été démoniaque le suppliait ». On voit donc que rien dans cette histoire ne se passe sans l'action de Jésus et sans son accord. C'est comme si tout le déroulement du récit dépendait de lui, comme si personne ne pouvait agir sans sa permission. Si donc Jésus accepte la demande des démons, puis celle des Gadaréniens, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de son autorité, car rien ne se produit sans son autorisation. Souvenez-vous des premières fois où vos parents vous ont autorisé à sortir seul avec des copains. Vous vous sentiez alors indépendant, libre. Bah pourtant, si vos parents ne vous avaient pas autorisé à sortir, vous auriez dû rester gentiment chez vous. Et si vous rentriez après l'heure autorisée, alors là, ça bardait. À première lecture, on peut penser que les démons et les Gadaréniens sont libres et indépendants. Et pourtant, ils sont sous l'autorité de Jésus, comme vous, quand vous étiez, ou peut-être êtes toujours, sous l'autorité de vos parents. Jésus maîtrise bien la situation. Alors, comme ceux qui ont assisté au miracle, nous avons deux alternatives face à Jésus. Soit on s'arrête au récit de sa vie, on trouve ça chouette, ou on trouve ça bizarre, mais on ne va pas plus loin. Soit on s'interroge sur ce qu'il a accompli. Qui est donc cet homme ? Les évangiles ne sont pas que de belles histoires, ils ont des implications. Il est donc temps de conclure en voyant les implications de ce texte pour nous. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne fait pas beaucoup de sport dans ce texte. Il arrive sur la plage, un homme vient à sa rencontre, il envoie des esprits impurs dans des ports, puis les gardiens du troupeau s'en vont tout raconter, et des habitants viennent vers Jésus. En gros, Jésus n'a pas bougé de toute la scène. Tout ce qu'il fait, c'est prononcer quelques paroles. Puissant, non ? Si toute notre scène tourne autour de Jésus, notre application doit aussi tourner autour de Jésus. Parfois, on est tenté de se dire que ce que Jésus a fait, nous devons aussi le faire en tant que chrétiens. Je pense qu'il faut éviter une telle conclusion ici. Ce texte est centré sur Jésus. Comme on l'a dit, ce miracle est la version miniature de ce qui va se passer à la mort et à la résurrection de Jésus. Quand Jésus a fait taire l'accusation portée contre nous en subissant notre condamnation, quand Jésus a anéanti le pouvoir de la mort en ressuscitant, il a démontré pleinement sa puissance sur le mal. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, était le seul à pouvoir remporter ce combat. Aucun homme ne peut vaincre le mal, car il est lui-même entaché par le mal. En introduction, on avait posé cette question. L'homme ferait-il mieux d'agir que de croire, ou ferait-il mieux de croire que d'agir ? Ce texte répond qu'il ferait mieux de croire que d'agir, car l'homme ne peut venir à bout du mal par lui-même. Alors ça, cela a plusieurs implications, et je vais en citer quelques-unes au travers de trois exemples qui ne sont pas réels. D'abord, Jeanne est accro au film « À l'eau de rose ». Elle en regarde plusieurs par semaine pour se changer les idées, bien qu'elle se rende compte que cette dépendance ne soit pas bonne pour elle. Pour vaincre cette dépendance, elle a mis tous ses DVD à la cave. Mais à la place, elle en regarde en streaming sur Internet. Du coup, Jeanne se sent impuissante. En plus de ça, elle n'ose plus prier Dieu, car elle se sent indigne de ne pas s'en sortir. Cet exemple montre que, quand on lutte contre un péché, on peut avoir un sentiment d'échec chaque fois que nous péchons à nouveau. Ce sentiment d'échec peut nous conduire à nous sentir mal à l'aise avec Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait rester les bras croisés quand quelque chose ne va pas chez nous. Mais je pense que la chose la plus importante à faire quand nous luttons contre un péché, c'est de prier. Car celui qui pourra nous aider à vaincre ce péché, c'est Jésus. L'autre chose est de ne pas nous décourager. Nous devons nous souvenir que le mal en nous disparaîtra complètement lors du retour de Jésus. Hubert est un chrétien très engagé dans la politique. Le parti qu'il soutient, pense-t-il, va changer l'avenir de la France. Il s'investit beaucoup pour les prochaines élections car il est prêt à changer le monde. Le problème, c'est qu'Hubert a tendance à compter sur ses moyens humains. Il oublie que par le passé, des idées louables ont échoué à cause du mal qui se trouve dans le cœur de l'homme. Parfois, nous ressemblons à Hubert. Nous pouvons mettre toute notre énergie à changer le monde, en achetant des produits de commerce équitable, en donnant un coup de main à une association qui œuvre auprès des SDF, en pardonnant ce collègue qui n'a pas été très fair-play, etc. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais le danger est d'être trop confiant dans nos propres moyens, dans nos moyens humains, et d'avoir une trop haute opinion de ce dont nous sommes capables. Nous devons nous rappeler que le monde idéal n'arrivera qu'avec le retour de Jésus. Georges est très impliqué dans l'accompagnement des jeunes de son église. Récemment, Georges a pris très à cœur de passer du temps à lire la Bible et prier avec un jeune qui ne s'intéressait plus vraiment à la foi chrétienne. Finalement, ce jeune a décidé de tout envoyer balader, et ça a été un coup très dur pour Georges, qui s'est senti responsable de ce rejet. Parfois, nous sommes aussi un peu comme Georges. Nous avons vraiment le désir de conduire des personnes sur le droit chemin. Mais s'il est important de vouloir que d'autres personnes acceptent Jésus ou grandissent dans leur foi, il faut encore nous rappeler que seul Jésus peut faire céder les barrières qui sont dans le cœur des gens. Dans tous ces exemples, ce que nous voyons, c'est premièrement que nous ne devons pas être trop confiants dans nos propres capacités. Deuxièmement, que la prière est au centre de notre combat contre le mal. Troisièmement, que nous pouvons garder courage, car au retour de Christ, il n'y aura plus de mal. Personne n'était capable d'aider le démoniaque, mais Jésus a pu le faire. Souvenons-nous de cela quand nous luttons contre un péché, quand nous sommes désespérés face aux problèmes de ce monde, ou au contraire, quand les progrès actuels nous donnent l'illusion que nous sommes en bonne voie dans le combat contre le mal. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce rappel que tu es plus fort que le mal et que quand on ne sait pas trop comment réagir face au mal, ben toi tu es là et tu peux nous aider à le vaincre. Et je te prie que tu nous aides vraiment à nous souvenir que la prière est au centre de toute chose parce que toi seul peux nous aider dans ce combat contre le mal, que ce soit le péché ou les injustices de ce monde ou toute autre chose qui peuvent nous toucher, Seigneur. Amen.